Philippe avait parlé sur être des fils, des fils et des filles, esclaves ou fils. Puis voilà, pendant notre partage de la prédication, voilà typique que Martine arrive et nous pose des questions. Oui, mais dans la Bible, il est parlé des esclaves, d'être des esclaves de Christ. Alors je me suis dit, mince, elle a raison, cette Martine. Et du coup, ça m'a donné envie de réfléchir là-dessus. J'avais évoqué un petit peu auprès de Philippe, auprès de Pacom, Cédric aussi, enfin, auprès de quelques personnes, puis bien sûr auprès de celle qui est ma conseillère depuis bientôt 50 ans, 51 ans d'ailleurs. Et voilà, pour partager là-dessus, ça m'a intéressé de voir ces paradoxes, parce que la Bible est pleine de paradoxes qui sont exprimés. Je peux faire un petit F5 avec... Tiens, ça paraît pas là. Non, c'est pas grave. Non, laisse faire.
Faut allumer la musique.
D'accord, ça peut. Alors, d'une manière très estirée, j'ai appelé cette réflexion les paradoxes bibliques. C'est compliqué, il fallait le trouver, j'y suis arrivé, donc je vous en parle ce soir. Les paradoxes bibliques. Alors, quand on lit la Bible, quand on lit notamment le Nouveau Testament, on réalise que Dieu s'est abaissé sur terre en s'abaissant comme un simple homme, Dieu qu'il est, se faire simple homme à notre venue, à notre portée. Je dirais, c'est paradoxal de voir un Dieu qui s'incarne pour des gens qui ne sont pas dignes d'être, qui ne valent pas grand-chose, et finalement mériter que la croix où il y a eu Jésus. Dieu s'est incarné comme un simple homme, un paradoxe particulier, pour nous attirer jusqu'à lui, pour nous sauver, pour nous ouvrir son ciel de gloire. Un autre paradoxe, alors que nous étions morts dans nos péchés, nous sommes ressuscités par Jésus, tout simplement parce qu'on a cru en son sacrifice, on a eu la foi d'accepter cela et de croire. Alors, nous sommes rendus à la vie par lui, et en même temps, nous sommes crucifiés avec Jésus. J'espère que vous ne perdez pas votre latin si vous aviez quelques restes de vos années d'études. Par la nouvelle naissance, nous devenons des fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu, par la foi. Et en même temps, nous sommes des esclaves de Christ. C'est encore une fois paradoxal. Alors que nous sommes assis dans les lieux célestes, nous marchons sur terre. Je continue. Nous avons tout pleinement en Christ. Je dirais, si le monde réalisait ce que nous avons, il ne pourrait même pas le comprendre. Pourtant, l'Église est considérée comme étant les balayures de ce monde. La Bible nous dit que à celui qui a, on donnera en abondance, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Alors, on va faire un micro-trottoir, ou plutôt un micro-salle. Est-ce que vous auriez des paradoxes qui vous viennent à l'esprit? Je vous laisse réfléchir un petit peu. J'ai épuisé ma liste. Écoutez, c'est déjà pas mal. Hein. Maintenant, je passe le relais aux autres. David ?
Ouais, je pense qu'on est sauvé maintenant. On est sauvé en espérance.
On est sauvé en espérance. Et en même temps, notre espérance est une certitude, mais en même temps, elle n'est qu'une espérance. C'est aussi paradoxal. Quelqu'un d'autre ? Vous allez en trouver tout plein à la fin de la réunion. Alors, quel paradoxe, c'est c'est vrai que les valeurs de ce monde ne sont pas du tout les valeurs du royaume de Dieu. Notre manière de concevoir les choses n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Et ça, il faut qu'on le tienne pour acquis. Alors, bien sûr, j'ai rebondi sur ce que nous a dit Martine, plutôt son interrogation, parce que ça m'intéressait de le faire. Et ce soir, on va s'intéresser justement sur être enfant de Dieu, fils de Dieu et esclave de Christ. Alors, pardonne-moi, Philippe, j'ai piétiné tes plates-bandes d'il y a 15 jours. Dans Jean chapitre 1er, versets 12 et 13, il est dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Vous savez que Jean chapitre 1er, c'est ce qu'on appelle le prologue de Jean, où l'évangéliste va dans une introduction, va citer tous les thèmes qu'il va partager dans son évangile. Le thème de la vérité, le thème de la lumière, le thème de l'incarnation, le thème de l'amour de Dieu. Et si vous voulez, commençant par son évangile, il dresse, si vous voulez, comme un portrait, comme un plan de ce que sera l'ensemble de son livre. Et il dira, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, elle était le commencement avec Dieu. Toutes choses étaient faites par elle, et rien de ce qui était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, et on travaillera sur ce mot ce soir, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ou fils et fille de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors ce qui m'a fasciné, c'était quand même d'aller voir ce mot « pouvoir ». Elle a donné le pouvoir. Alors je suis comme vous, et je l'avais lu des dizaines et des centaines de fois, certainement. J'ai même prêché pendant très longtemps, assidûement, sur Jean chapitre 1er, les 18 premiers versets. Et quelque part, le texte, je l'avais bien imprégné. Mais je n'avais jamais fait une recherche sur le mot « pouvoir ». Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La plupart des traductions traduisent comme second à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, etc., ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et j'ai regardé quand même la traduction de Genève 1669. Vous n'étiez pas né, moi non plus, va traduire, elle a donné ce droit. Je trouve ça intéressant. C'est une nuance par rapport au pouvoir. Elle a donné le pouvoir, là, elle a donné ce droit. Tandis que la semeur traduira, elle a donné le privilège. C'est pas mal aussi, ça. Pendant que Darby surfera sur le lac de Genève en disant « elle a donné le droit tout à nouveau », pendant que la traduction de Perret dira également « le droit ». Ainsi donc le mot « pouvoir » qui a comme numéro Strong 1849, dont je te regarde attentivement dans ma Bible, ce mot « pouvoir » apparaît fréquemment dans le Nouveau Testament, puisqu'il est cité 103 fois par autorité supérieure. On verra quelques textes dans quelques instants. Pouvoir, puissance, gouvernement, maître, juridiction, disposition, autorisation, exercice dans le sens d'une fonction, liberté, droit. Voilà comment Segond le traduit ce mot à différents endroits de son texte, donc de la Bible du Nouveau Testament. Ce mot pouvoir ce 1849, si vous voulez, vient de mots qui signifient avoir la permission de faire. Il revêt donc une notion d'autorité, de pouvoir et de puissance, d'autorisation et de liberté de choix. J'ai le droit d'être un enfant de Dieu. Dites pas amen. Hein.
Amen.
Vous vous rendez compte ? J'ai le droit d'être un enfant de Dieu. C'est pas n'importe quoi. J'ai le droit d'être un enfant de Dieu. J'ai la permission d'avoir ce titre. C'est pas un titre que je revendique, un titre que j'ai choisi, un titre que quelqu'un gentiment m'a dit. Tu sais, tu es un véritable enfant de Dieu parce que tu es quelqu'un de gentil. Non. Que je sois gentil ou pas gentil, que je sois quelqu'un de bien ou de pas bien, j'ai le privilège, j'ai le droit d'être un enfant de Dieu, comme un acte juridique. Alors, Simon vous l'expliquerait certainement beaucoup mieux que moi, alors je vais essayer de me dépatouiller comme je peux, là. Et j'ai la permission d'user de ce titre, je vous remercie de fermer les fenêtres. C'est-à-dire, je peux faire le choix d'être un enfant, ouais, surtout ça là, ouais. J'ai la permission, j'ai le choix d'user de ce titre. Je peux faire le choix d'être un enfant de Dieu. En réalité, mon choix d'être un enfant de Dieu ne dépend pas de la décision de Dieu qui me dit tu peux le faire ou ne pas le faire, parce que Dieu me donne la permission de le faire. Ça ne vient pas de la permission d'un homme. Ce n'est pas de la volonté d'un homme, ce n'est pas une filiation héréditaire ou l'appartenance à un groupe ethnique, à une religion ou à un groupe religieux ou à un pays ou quoi que ce soit. C'est un choix qui m'est donné. J'ai le choix, j'ai le droit, je peux être un enfant de Dieu. Et chacun de nous peut user de ce droit, mais tout à fait librement. Ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé, c'est quelque chose que nous pouvons user. Je décide d'être un enfant de Dieu. Et de la même manière, je pourrais dire, je décide de ne pas être un enfant de Dieu, mais moi je décide d'être un enfant de Dieu et de rester un enfant de Dieu, et je ne veux surtout pas lâcher la main du Seigneur, mais je veux être un enfant de Dieu, je veux faire ce choix, être un enfant de Dieu. Alors ce mot « pouvoir » 1849, c'est le mot que va utiliser le centenier romain quand il demande à Jésus de dire un mot pour la guérison de son serviteur. « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, dira-t-il, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « va » et il va. À l'autre « viens » et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Moi qui suis soumis à des supérieurs, dira-t-il. Et le mot supérieur, c'est le mot 1849, le mot pouvoir, le mot autorité, le mot autorisation. C'est ce mot qui est là, dans la bouche de cet homme qui ne comprend rien certainement aux choses de Dieu, en tout cas pas grand-chose. Il est certainement dans son ignorance la plus totale, sauf il sait que lui, il obéit à des supérieurs et qu'en même temps, des gens lui obéissent. Et il a le droit de demander quelque chose à de ses serviteurs, comme un de ses supérieurs peut lui demander quelque chose parce qu'il est son supérieur. La soumission de ses subordonnés, quelque peu le pas, est conditionnée par sa propre soumission à l'autorité supérieure. En fait, il part du principe que parce qu'il obéit, les autres vont lui obéir. Quand j'étais chef scout, on m'avait appris que pour me faire obéir, il fallait que j'obéisse. Parce que comment pouvais-je décider de me faire obéir, parce que j'étais chef, un petit chef, mais un chef camion. Comment pouvais-je demander à mes patrouillards de m'obéir si moi-même j'obéis, c'est pas au chef qui était au-dessus de moi. Donc cet homme est conscient de ça, je suis soumis à des supérieurs, J'ai les soldats sous mes dents et je dis, donc toi tu peux le faire, tu as le pouvoir de dire un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus va reconnaître qu'il y a dans cet homme une foi particulière qu'il n'a jamais vue même en Israël. C'est la foi d'un homme qui a confiance dans la parole de Dieu, comme dans la parole de l'homme, mais dans la parole de Dieu. J'ai un mot et mon serviteur sera guéri. Et moi ce soir, j'aimerais vous dire que Dieu a toujours le même pouvoir. Le même pouvoir, et nous voulons compter sur son pouvoir. Seigneur, tu peux le faire, j'ai un mot, et je serai guéri, mon serviteur sera guéri, et il y aura la bénédiction. Ainsi, être un enfant de Dieu n'est pas à l'origine d'une décision de notre volonté seule, mais c'est un choix de Dieu, une décision de Dieu qui nous autorise légalement à accepter ce choix. On a le droit, je le redis, on a le droit, on a le pouvoir, la permission d'être des fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu, nés légalement de Dieu. Je ne sais plus qui dit cela, je crois que c'est Romain 8, il me semble. On n'est pas des enfants illégitimes, on est des enfants légitimes, légalement légitimes, parce que nous sommes né de Dieu. Alors cela nous permet de faire d'autres choix, choix d'une vie de liberté et de marche avec Dieu. Toute notre vie découle de ce choix initial, choisir Dieu par le miracle de la nouvelle naissance. Avez-vous compris cette première pensée, le choix de devenir enfant de Dieu? Et c'est là que je mets les pieds dans le plat des paradoxes, parce que nous avons le choix d'être des enfants de Dieu, mais nous avons aussi le choix de servir Dieu et d'être esclaves de Christ. C'est aussi un autre paradoxe. Nous sommes libres de tout esclavage. Est-ce que vous avez un texte à me citer là pour conforter ce que je vous dis là? Jean 8, 36. Si le Fils vous affranchit, vous êtes
réellement libre.
Réellement libre. C'est un décret prononcé par Dieu. Être libre de tout esclavage, de ce qui peut dominer nos vies, et en même temps, devenir esclave de Christ. C'est hallucinant. Hallucinant. Je ne capte pas. Seigneur, tu me dis d'être libre. Vous avez remarqué que le Seigneur ne nous demande pas d'être des esclaves. Il ne nous demande pas d'être esclaves de Christ. Et j'aime même vous dire une chose. Même si vous ne servez pas, même si vous ne témoignez pas, parce que vous voyez des fois ce qu'on entend, hein, même si vous ne témoignez pas, même si votre vie est n'importe comment, si par la foi, vous avez fait le choix d'accepter Christ et d'être un enfant de Dieu, vous êtes sauvé. Même si vous ne témoignez pas de votre foi, même si vous ne faites pas d'expérience, même si vous ne servez pas, même si vous venez au culte le dimanche matin, les mains dans les poches, en vous disant « je ne veux pas aller plus loin », c'est dommage pour vous, c'est dommage pour l'Église, c'est dommage pour la société, mais ça ne change rien à notre salut. Que l'on témoigne de notre foi ou pas, ça ne change rien de notre salut. Je dirais que l'on vive dans la sainteté ou pas, ça ne change rien pour notre salut. Par contre, marcher dans la sainteté est pour nous un bonheur, parce qu'on apprend à marcher d'une vie équilibrée. Témoigner notre foi, c'est quelque chose d'important, parce que ça bouillonne en nous et on a envie de l'exprimer. Vivre en harmonie les uns avec les autres, c'est quand même mieux que de vivre comme des cinglés, chacun de notre côté. Donc on peut faire le choix de devenir des esclaves de Christ. Alors, on va regarder quelques textes. Alors, deux mots sont utilisés pour parler du serviteur. J'ai oublié de vous dire ça. Vous avez le mot « doulos » qui porte le numéro 1401. Et le mot pei, païs, je ne sais pas comment on le prononce, c'est un mot grec, qui porte le mot 3807. Donc on va d'abord se intéresser au mot doulos. Le mot doulos signifie le serviteur dans sa condition la plus humble. Alors que le mot païs, 3816, désigne, on le verra dans quelques instants, mais désigne davantage un enfant en bas âge, un serviteur qui a un rôle particulier, voire même un ministre. Hein, ça peut aller très, très, très loin, c'est beaucoup plus que le doulos. Le doulos, c'est l'esclave, le serviteur, dans son rang le plus bas. Alors, on va lire quelques textes qui vont utiliser doulos. Alors, je vous les cite, si vous voulez les noter, puis après je vous les lirai. Vous avez Romains chapitre 1er, verset 1er. Romains 6, 17. 1 Corinthiens 7, 22. Galates 1, 10. 3, 28. 4, 7. Galates 4, 7. Philippiens 1, 1. Et Philippiens 2, 7. Alors, on va les lire. Il y voyait rien ici. Paul, serviteur. Là, c'est le mot 1401. Donc le mot doulos de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Paul est celui qui mettra en évidence la doctrine de l'adoption, de la filiation à Dieu. Et il va dire qu'il est un doulos, un esclave, un serviteur, serviteur de Jésus-Christ, mais on pourrait traduire mot doulos, esclave de Jésus-Christ. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, 1401, doulos, pour lui obéir, vous êtes esclave, rebelote, doulos, de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. On a fait le choix de devenir les doulos de l'obéissance, non pas du péché. Romains 6, 17, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave, 1401 du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. 1 Corinthiens 7, 22, car l'esclave, 1401 doulos, qui a été appelé dans le Seigneur, est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé, sous-entendu par le Seigneur, est un esclave, un doulos, 1401, de Christ. Galates chapitre 1er, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que j'ai désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur. Doulos, 1401. Je ne serais pas serviteur de Christ. Pendant que Galates chapitre 3, verset 28 nous dit ceci. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, 1401, doulos, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alléluia. Galates, chapitre 4, verset 7. Et si tu n'es plus esclave, doulos, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Vous en sortez que c'est paradoxe. On se rend compte de la complexité de cela. Fils, esclave, est-ce incompatible? Non, pas du tout. Ça forme un tout. Et si nous sommes définis comme des fils et des filles, des enfants de Dieu, d'une manière statuaire, d'une statutaire, d'une manière formelle, si vous voulez, par choix, nous acceptons. De la même manière, par choix, nous acceptons d'être des esclaves et des esclaves de Jésus. Philippiens, chapitre 1er, verset 1er, Paul et Timothée, serviteurs de doulos encore de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Là, le mot diacre, c'est le mot diakonos, qui désigne le service. C'est étonnant parce que quand on pense à Paul, on se dit c'est un homme d'envergure. Et pourtant, il se fait appeler doulos, esclave, alors qu'il vient pour parler à des évêques, à des diacres, à des saints en Jésus-Christ. Donc, Paul était conscient de son service et de son humilité avec Dieu. Et cerise sur le gâteau, Philippiens 2:7, un texte qui est extraordinaire, il vient parler de Christ, mais Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de maître, de seigneur, une forme de serviteur, une forme de doulos, une forme d'esclave en devenant semblable aux hommes. L'incarnation de Christ a consisté à ce que Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, le Créateur du ciel et de la terre, s'incarne sur la terre comme un simple homme sous la forme d'un serviteur, d'un doulos, d'un esclave. Avez-vous compris ce que ça représente? Mais est-ce que Jésus, lorsqu'il était esclave sur la terre, lorsqu'il était serviteur, est-ce qu'il était moins fils que lorsqu'il était dans le ciel?
Non.
Il dit à un moment donné, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Dans le jardin de Gethsémani, il va prier son père. Lorsqu'il priera la prière sacerdotale de Jean chapitre 17, il dira « Père ». Et quand, sur la croix, il priera en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Donc on se rend compte que Jésus, tout en étant serviteur, doulos, était vraiment conscient de son statut de fils, sa position de fils. Alors, plusieurs mots encore sont utilisés pour parler du serviteur, Pace, 3816, qui sont le mot est traduit par serviteur. Je disais que le mot doulos est un esclave, un homme de condition servile. Second va traduire ce mot 124 fois dans le Nouveau Testament, 99 fois par serviteur, 25 fois par esclave. J'ai l'impression qu'il n'a pas trop osé mettre le mot « esclave ». Et le mot « païs », notre mot serviteur, va donc désigner un enfant, un serviteur familier de la famille, je dirais un serviteur spécial, voire même un ministre. Un ministre, je ne sais pas s'il le sait, c'est un serviteur d'un pays. Serviteur de la République. Alors, on va se mettre un petit peu à explorer ce mot. Hein. Quelques textes. Matthieu, chapitre 2, verset 16. Matthieu, chapitre 8, verset 8. Matthieu, chapitre 8, verset 6, verset 8. Matthieu, chapitre 8, verset 13. Matthieu, chapitre 12, verset 18. Luc 1, 54. Luc 1, 69, Luc 2, 43. Alors, je commence. Matthieu 8, 8. Le centenier répondit. Oui, pardon. Le centenier répondit. Non, j'ai dû me tromper.
Matthieu 2, 16.
Ouais, j'ai oublié. Matthieu 2, 16, c'est de ma faute. Alors, Hérode, qu'est-ce qu'il vient faire là? Il y a le mot païs dans son texte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants, tous les païs. C'est le 3816 de 200 et au-dessous, qui était à Bethléem et dans tout son territoire. On comprend l'histoire, on connaît l'histoire. Ce fou hystérique qui voulait faire assassiner Jésus, et qui, voulant mieux le coincer, disons, peut faire assassiner tous les enfants de moins de 2 ans. Et c'est le mot « païs ». Matthieu 8, 6. L'homme, plutôt les hommes, l'homme le prie et en disant, le priant en disant, « Seigneur, mon serviteur, j'ai fait une bêtise. Mon serviteur, 3816, est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » 8:8, Saint-Denis répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur, païs, sera guéri. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur païs fut guéri. Matthieu, chapitre 12, verset 18. « Voici mon serviteur, » là il est parlé de Jésus, « païs, que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir, je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. » Puis après ça, les textes de Luc, Luc 1, 54. Il a secouru Israël, son serviteur. C'est remarqué, c'est pas le mot doulos, c'est le mot païs. Et il se souvenait de sa miséricorde. Luc 1, 69. Dieu nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Païs, toujours, 3816. Luc, chapitre 2, verset 43. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus, l'enfant, le mot païs, 3816, resta à Jérusalem. Donc on a bien compris la différence qu'il y a entre ces deux formes de service. Le service qui est, ce serviteur qui est à la fois un enfant, un serviteur spécial, un ministre, quelqu'un de particulier, l'esclave, et vous avez remarqué que celui qui a la primauté, le plus de fois cité, c'est le mot doulos, qui est attribué à Jésus, qui est attribué aux apôtres, et que l'on peut s'attribuer nous-mêmes. Alors, fils et fille de Dieu, par décret, c'est un pouvoir que nous avons reçu de la part de Dieu, nous avons le pouvoir de devenir des fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu, esclaves par choix. Et j'ai choisi mon camp, j'ai envie d'être un esclave avec Jésus. Parce que quand je suis esclave de Christ, alors je suis véritablement libre. Parce que la Bible est claire, on est toujours esclave de ce qui a triomphé de nous. Et j'ai le regret de vous dire que Christ a triomphé de moi. Je ne sais pas de vous, mais il a triomphé de moi, et c'est pour ça que je suis son esclave. Pour terminer, devenir un enfant de Dieu, un fils ou une fille de Dieu, est un choix de foi. C'est par la foi que nous acceptons le salut de Dieu après la repentance et la foi dans le sacrifice de Jésus pour nos péchés. De même, c'est par la foi que nous devenons esclaves de Christ dans le désir de le servir. Alors bien sûr, s'il y a un paradoxe, il n'y a pas de disharmonie. Librement, on accepte d'être des fils et filles, et tout aussi librement, on fait le choix de servir et d'être esclaves de Christ. Amen. Amen.